Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation, de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Nomadic Lifestyle. Aujourd'hui, je voulais parler de mon super voyage au Sénégal que j'ai fait durant les deux dernières semaines de septembre. Donc, je suis revenue la semaine passée, en gros. Et voilà, c'était vraiment un très, 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 très beau voyage. Et je sais que beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur le Sénégal. Surtout, ben voilà, en tant que femme solo, en termes de sécurité et tout. Donc, je me suis dit que j'allais faire un retour sur, sur mon voyage pour, ben voilà, un peu donner mes impressions, parler un peu de ce que j'ai au niveau sécurité et tout, qu'est-ce que j'ai remarqué, des conseils aussi, bien sûr, pour la sécurité. Je vais vous donner des conseils pour la sécurité. Je vais aussi parler de... Moi, je suis végétarienne, donc un peu... Comment être végétarien au Sénégal, mon budget aussi pour le voyage, donc combien ça m'a coûté. Et ensuite, ben, je voulais te donner des conseils pratiques pour ben, l'hébergement, la nourriture, les transports, etc. Si tu as aussi envie d'aller au Sénégal, comme ça tu auras un petit peu des ressources là-dessus, parce que bon, le Sénégal, c'est pas une destination hyper commune, ce qui est justement... la raison pour laquelle j'avais décidé d'y aller, j'avais envie de visiter un pays complètement nouveau et tout. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'intéressera de découvrir un peu ce pays, mais aussi qu'il t'encouragera à un peu sortir de ta zone de confort si t'es jamais allé en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne, et que peut-être ce petit épisode te motivera à aller... visiter le merveilleux pays qu'est le Sénégal. Donc, je voulais juste commencer avec mes impressions générales sur le pays, un peu comment je l'ai vécu, pour un peu te mettre dans le bain. Donc, c'est sûr que... alors, j'ai vraiment adoré le voyage. C'est un magnifique pays, mais c'est un magnifique qui est un peu différent de, par exemple, voyager dans des pays occidentaux où c'est, entre guillemets... vraiment, les édifices, les villes et tout sont magnifiques. Je trouve que le Sénégal, en fait, c'est plus une expérience humaine. C'est vraiment ça qui est la beauté du pays. Parce que c'est sûr que ben, les premiers jours, c'est un peu un choc de voir la misère dans laquelle vivent les gens dans certaines zones. C'est pas dans tout le pays, hein, mais dans certaines zones en particulier. Les animaux aussi, le traitement des animaux et tout, ça, c'est quand même difficile. Il y a vraiment une quantité de déchets... hallucinante. Honnêtement, c'est un gros impact. En tout cas, moi, ça m'a quand même choqué de voir autant de déchets, en sachant très bien que ce ne sont pas que les Sénégalais qui font ces déchets. Hein. C'est probablement beaucoup de déchets proviennent de l'Occident, donc c'est aussi en partie notre faute. Hein. Mais voilà, ça a été quand même intense. Les premiers jours, ça m'a vraiment... Ça m'énervait, en fait, de me faire appeler Toubab. Toubab, ça veut dire étranger ou étrangère, en fait. Et donc, de me faire appeler comme ça tout le temps, j'ai trouvé ça vraiment... c'était la première fois que ça m'arrivait, de me faire traiter autant souvent d'étrangère. Et voilà, ça m'a quand même affectée, je dois dire, parce que je me sentais vraiment comme mise à l'écart. Et je me dis, ben voilà, ça m'a fait vraiment faire réfléchir, en fait, sur le fait que... Ben voilà, c'est probablement aussi un peu comment se sentent les personnes de minorités culturelles dans nos pays. Donc ça a été quand même intéressant de vivre cette expérience. Aussi, quelque chose qui a été quand même fatigant à la longue, c'était de devoir négocier pour tout et d'avoir un peu toujours l'impression de me faire avoir. Parce que c'est sûr qu'ils essaient avec les touristes d'augmenter les prix, mais c'est vraiment la fatigue de toujours devoir négocier les prix. C'est là que je me suis rendu compte que c'est quand même simple d'aller dans un magasin ici et de se faire dire le prix, mais en même temps, ça fait réfléchir sur la valeur des choses. Bref, ce voyage m'a vraiment fait réfléchir sur plusieurs aspects de notre propre culture occidentale et tout, et c'est vraiment ça que j'aime quand je voyage. Donc ça a été un choc les premiers jours, mais vraiment après 2-3 jours, j'ai commencé à m'habituer déjà, et surtout à mieux comprendre comment fonctionnaient les choses, comme par exemple les transports, comment négocier, les endroits où aller, par exemple pour manger comme les Sénégalais, éviter les endroits touristiques, les choses comme ça. Les prix moyens aussi, hein, pour ne plus me faire avoir autant sur les prix. Et aussi, d'un peu devoir au-delà de la pauvreté, des déchets et tout, et vraiment me concentrer sur, en fait, les gens que je rencontrais, l'expérience humaine, plus que ce qu'on voit de prime abord dans le pays. Donc, vraiment... les 2-3 premiers jours, je me sentais comme chez moi. J'avais vraiment ce sentiment d'être comme chez moi parce que les gens sont vraiment hyper gentils. C'est vraiment... ils sont hyper généreux. Ils vont vraiment t'aider si t'as des problèmes. Moi, à chaque fois, les gens, ils ont été super gentils. Ils ont essayé de m'aider le plus possible. Donc, vraiment... et c'est une culture hyper riche, hyper intéressante, très profonde. Ils sont très philosophiques. Donc, c'est vraiment philosophique. Ils sont très philosophes. Bref, donc vraiment, ça a été vraiment, pour ça, l'aspect que moi j'ai préféré, comme d'habitude, c'est toujours l'aspect que je préfère, les gens que je rencontre, échanger avec les gens. Donc aussi vraiment le rythme tranquille, en fait, de la vie là-bas, ça change vraiment de notre rythme de vie effréné, donc ça a été vraiment trop, trop bien. Donc j'ai vraiment adoré mon voyage, c'est un magnifique pays, il y a vraiment des endroits, mais sublimes, qui sont vraiment magnifiques. Et au-delà de tout ça, la culture en soi, c'est vraiment une très, très belle découverte. Par contre, je ne suis pas certaine que je conseillerais le Sénégal comme premier voyage solo. Parce que, il faut quand même savoir bien se débrouiller, ne pas avoir peur d'aller parler aux gens, de leur demander des infos, de demander de l'aide, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de ressources disponibles en ligne, même des guides de voyage et tout, j'en ai vraiment pas trouvé beaucoup. Donc, sur le Sénégal en général et tout, il n'y a pas beaucoup de ressources en ligne, les horaires d'autobus, les trucs comme ça, c'est pas comme en voyager en Europe ou en Amérique du Nord où tu peux utiliser Google Maps ou des trucs comme ça pour savoir les transports ou même faire des recherches et tout. C'est vraiment compliqué d'avoir des informations. Donc, il faut vraiment savoir s'arranger pour pouvoir voyager au Sénégal. Donc, c'est un magnifique pays, mais je ne conseillerais pas nécessairement comme première destination de voyage solo. Sauf si tu as vraiment envie d'un méga challenge, et là, tu vas être challengé. Et le reste, ça va être... d'autres voyages, ça va être hyper facile par rapport à ça. Donc voilà un petit peu. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est aussi justement la sécurité et en tant que femme solo, comment est-ce que j'ai trouvé le pays et tout, et mes conseils à ce propos. Donc, avant de partir, il y avait tellement de gens qui étaient genre « Oh my God, mais le Sénégal, tu vas au Sénégal toute seule, mais c'est dangereux, fais attention, oh my God, et tout. » Et les gens, je voyais l'inquiétude de « Mais... » sur leur visage, là, comme si je leur avais dit que j'allais, en zone de guerre ou je sais pas. Vraiment, le Sénégal, moi, j'ai trouvé ça hyper safe. Je me suis pas sentie en danger une seule fois. Après, c'est sûr, c'est pas parce que moi, rien ne m'est arrivé, mais en général, vraiment, c'est un pays très, très sécuritaire où voyager. Faut seulement prendre des précautions normales, comme dans n'importe quel pays. Moi, ici, à Madrid, c'est... Les précautions normales, ben voilà, je les prends même ici à Madrid parce que c'est une capitale, il y a des pickpockets, il y a des trucs comme ça, donc voilà, c'est juste des trucs normaux, là, de quand on voyage ou même, voilà, dans des grandes villes et tout, faire attention à ses affaires dans les endroits avec beaucoup de monde, par exemple, dans les marchés, sur la plage. Bon, sur la plage, j'ai une petite anecdote, hein, j'avais heureusement avec moi dans une pochette étanche que je recommande à 100% si tu voyages solo et que tu vas à la plage, donc dans la pochette étanche, j'avais mon téléphone et mes clés. Et j'avais laissé mes vêtements, ma serviette sur la plage et il n'y avait rien, j'avais aucune chose de valeur, seulement mes vêtements. Et j'ai vraiment le temps de rentrer dans l'eau, de me mouiller la tête et de me relever. Il y avait une vieille dame sur la plage à Dakar qui était en train de tâter toutes mes affaires. Genre, je l'ai vraiment vue mettre la main dans toutes mes poches et tout. Donc voilà, hein, il faut faire attention. Il y a des pickpockets. On m'a dit aussi, des Dakarois m'ont dit, ou même des Sénégalais en général m'ont dit, faire attention aux pickpockets et tout. Mais voilà, ça, faut faire attention un peu partout, donc c'est normal, faut juste éviter de, voilà, de montrer de la richesse aussi, ça c'est comme toujours quand on voyage, et faire attention à ces choses, et voilà, il devrait pas arriver grand-chose en faisant comme ça. Bon, il y a certaines zones quand même à éviter le soir, surtout à Dakar, dans les autres villes. Je me suis pas vraiment sentie en danger, mais bon, c'est quand même mieux, en général, d'éviter de sortir très tard le soir, surtout si t'es toute seule ou tout seul. Par exemple, à Dakar, c'est les recommandations que j'ai lues. Moi, je me suis promenée sur la corniche. Bon, c'était pas la pleine nuit, hein, mais le soir et tout, je me suis pas sentie vraiment en danger. Autour de la gare des Beaumarchais, ça oui, par contre, la gare des Beaumarchais, ouf, je n'irai pas là. Genre, mon ami, moi, sénégalais, m'avait dit d'aller prendre le bus là à 5h du matin et je suis heureuse de pas l'avoir écouté et d'être allée en journée parce que, voilà, c'est une zone... j'ai pas trop aimé la vibe autour de la gare, donc ouais, il y a ça, j'éviterai la nuit, absolument. Après, moi, des Dakarois m'ont dit qu'il y a parfois des vols à la tire, donc par exemple, c'est des motocyclettes qui passent et qui arrachent les sacs. Voilà, faire attention au téléphone et aux sacs en marchant sur les trottoirs et dans les rues, bon, sans devenir parano, hein. Moi, de toute façon, ça, c'est quelque chose que je fais toujours, même si à Madrid, je répète, si j'utilise mon téléphone sur la rue, je le tiens avec deux mains, j'essaie de pas être exactement sur le bord de la rue, si je dois vraiment regarder où je dois aller et tout, j'essaie de me mettre un peu en retrait, trouver genre un cadre de porte et tout pour regarder. Bref, voilà, on n'est pas parano, mais on fait attention normalement, quoi. Pour les femmes en général, alors ça, c'est quand même une expérience d'aller en tant que femme solo au Sénégal. Pas du tout, je me suis jamais sentie en danger, je répète, mais c'est quand même intéressant. déjà en partant, Sénégal, c'est un pays très très majoritairement musulman. Genre, je pense que c'est 95 ou 98% de la population qui est musulmane. Donc, je te conseille vraiment de te couvrir les épaules et les genoux par un, respect pour la culture locale, et deux, vraiment pour toi, pour éviter de te faire achaler, parce que moi, j'avais toujours des pantalons longs, j'étais toujours en t-shirt à manches courtes et tout, et je me suis fait accoster, mais vraiment constamment, donc j'imagine pas vraiment si j'avais eu des shorts et genre des tops avec les épaules découvertes et tout, ou le ventre à l'air et tout. Donc vraiment, pour toi, en fait, en tant que femme, là-bas, je te conseille juste pour éviter d'avoir encore plus de... Je dirais pas que c'est... Ben oui, c'est un peu du harcèlement, en fait, là, on va le dire, hein. Pour éviter de te faire harceler, accoster à tout bout de champ, vraiment, habille-toi d'une façon... Ben voilà, couvre tes épaules, tes genoux, et... mais voilà, à part ça, il y a vraiment pas de problème. Après, surtout à Dakar, ils sont très tolérants sur l'habillement à l'occidental, donc... Si tu as envie de te mettre des shorts courtes, des trucs sans manches et tout, tu vas pas te faire lapider, là, mais voilà, tu risques de te faire accoster encore plus. Voilà, pour le thème de l'accostement, justement, accostement, ça se dit ça en français, je suis pas sûre, hein, je pense que je suis en train d'inventer des mots. Se faire accoster, ça se dit en français? Bref, de se faire toujours parler par des personnes, là. Donc, tu vas vraiment, vraiment très, 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 très fréquemment te faire arrêter sur la rue, en général, par des hommes qui vont vouloir parler avec toi. c'est vraiment hyper commun. Genre, tout le monde te dit bonjour. Si tu t'arrêtes trop et tu réponds et tout, ils vont engager la conversation et ça va finir généralement par « Est-ce que je peux avoir ton numéro? » Donc, moi, je te conseille de dire simplement « Non, merci » et de continuer ton chemin ou de juste de répondre « Bonjour » ou « Salam alaikum » ou « Alaikum salam », bref, selon si tu as déjà dit « Salut » et de juste continuer ton chemin. Ils vont vraiment, ils te laissent tranquille, hein, ils sont pas là à te harceler, de courir après et tout. Fais juste dire « Non, merci » puis tu continues ton chemin et voilà, ils te laissent tranquille. Par contre, moi, ça m'est arrivé des fois d'engager la discussion. Ça m'est arrivé souvent d'avoir des discussions intéressantes avec la personne où la personne m'a dit « Ah non, mais attends », elle m'a parlé par exemple d'un endroit à visiter ou de quelque chose à faire que j'avais... que je connaissais pas et tout. Donc, voilà, ça peut être aussi intéressant de parler avec eux. Par contre, si c'est... Alors, j'ai noté que les femmes, en tout cas, ont presque jamais parlé avec moi. C'était surtout les hommes. Donc, ce que j'ai trouvé un peu dommage. Mais voilà, donc ça va être principalement des hommes qui vont venir te parler. S'ils insistent, pour avoir ton numéro et tout, en général, ils veulent ton numéro, tu peux leur déjà porter une fausse alliance ou une vraie alliance, hein, si t'es marié ou engaged. Dis simplement que t'es marié et généralement, ça suffit pour qu'ils te laissent en paix. Moi, je te conseille vraiment de ne pas donner ton numéro de téléphone, sauf si t'es vraiment intéressé à garder le contact avec la personne, parce que sinon, tu vas vraiment recevoir des tonnes de messages et même d'appels des personnes. Les Sénégalais sont un petit peu intenses, honnêtement, sur les messages et tout. Moi, j'ai fait l'erreur de le donner à deux personnes. Des messages incessants et j'ai parlé avec d'autres personnes, des Françaises par exemple qui vivent là-bas et tout. Il faut éviter de donner le numéro parce qu'ils vont vraiment t'appeler et t'envoyer des messages de manière incessante. Donc je te conseille de pas donner ton numéro. Si la personne insiste pour avoir ton numéro, moi ce que je faisais c'est « Ah ben toi donne-moi le tien » comme ça je peux décider si je contacte la personne ou pas. Donc ça permet de laisser que la personne elle te laisse tranquille sans recevoir une quantité énorme de messages. Donc voilà un petit peu pour le thème de la sécurité et du voyage en tant que femme solo au Sénégal. Vas-y, si tu veux aller au Sénégal, n'hésite pas. Si c'était la question de la sécurité qui te faisait un petit peu peur, vraiment vas-y sereinement. L'autre point dont je voulais parler un petit peu, qui ne s'applique vraiment pas à tout le monde, j'en conçois, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont végétariens, donc je me suis dit que j'allais faire une petite parenthèse là-dessus, vu que je suis moi-même végétarienne, et qu'en voyage, des fois, ça peut être un petit peu un challenge. Eh bien, le Sénégal, c'est un challenge pour le végétarisme. Honnêtement, c'est presque impossible d'être végétarienne ou végétarien au Sénégal. Il y a de la viande et du poisson dans tous les plats. Genre, partout. Donc, dans plusieurs plats, c'est possible, par exemple, de ne pas manger la viande ou le poisson. Tu peux même leur demander qu'ils ne te le mettent pas. Par contre, c'est beaucoup des sauces, des choses comme ça. Donc, la viande, par exemple, genre le mafé, qui est de la viande dans une sauce aux arachides. Moi, j'ai demandé une fois sans la viande et il y avait par contre des bouts de viande. Là, et c'est impossible de les voir parce que c'est une sauce brune en plus. Donc, c'est un peu un challenge. Moi, j'ai décidé de prendre une pause pendant ces 2 semaines. C'était la première fois que je le faisais en 10 ans de végétarisme. Mais c'est vraiment difficile de trouver d'autres sources de protéines, à part les arachides. des yogourts dans les supermarchés. Mais déjà, de un, il n'y a pas énormément de supermarchés. En dehors de Dakar, trouver un supermarché, c'est vraiment pas facile. Et donc, c'est quand même compliqué. Déjà, je mangeais pas beaucoup au début parce que j'ai fait des journées dans des autobus et tout. Bref, j'étais affamée certains jours. Et donc là, je me suis dit, si en plus je mange aucune protéine, je vais pas réussir à à survivre les 2 semaines. Donc, surtout parce que là-bas, l'élevage et la pêche sont encore faits de façon traditionnelle et non intensive. Moi, je suis devenue végétarienne pour l'impact, essayer de diminuer un peu mon impact environnemental. Donc, je me suis dit, ben voilà, c'est quand même des façons de produire la viande et le poisson qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement que ce qu'on fait nous en Occident. Donc, je me suis dit que pour ces 2 semaines-là, j'allais faire une pause. Mais voilà, sache que si tu es végétarien ou végétarienne, ça va être un petit peu difficile au Sénégal. Voilà. OK, alors maintenant, je voulais parler du budget parce que c'est souvent une question qui revient. Donc, le Sénégal, par rapport à ce que ben, plusieurs personnes pensent, hein, que l'Afrique, c'est moins cher pour voyager en Afrique, en fait, non. En Afrique, il n'y a pas de structure pour les backpackers, donc genre les auberges de jeunesse, les choses comme ça, pour voyager à moindre coût ou à la route. Et donc, c'est une destination qui est chère, en tout cas, surtout pour ce qui est des hébergements et des transports. Moi, c'est un des voyages les plus chers que j'ai fait dans ma vie. Moi, je suis une voyageuse budget traveler. Je voyage généralement en dépensant très, très peu dans mes voyages. Mais là, le Sénégal, c'est vraiment un des voyages qui m'a coûté les plus chers à date. Je vais te parler là de tout mon budget. Mais voilà, surtout pour les hébergements et les transports, si tu vas seul, sache que ça va être un bon budget. Par exemple, ben voilà, pour les transports, ben là, j'ai payé l'avion 360 €, départ de Madrid, vol direct. Mais bon, ça peut changer par rapport à ta destination. Mais sur place, ça m'a coûté 112 € de transport. Donc moi, j'ai pris vraiment honnêtement presque tous les types de transports possibles au Sénégal. Et c'est sûr que ben, ce qui m'a coûté très cher, c'est surtout les taxis à Dakar. Où ben, j'aurais pu économiser beaucoup si je n'avais pas été seule. Donc ça, c'est à mettre en compte. Après, mon budget pour les transports a été très élevé au début du voyage. De un, parce que ben, voilà, je ne savais pas les prix moyens, je ne savais pas encore négocier. J'utilisais beaucoup les taxis au début, vu que je ne connaissais pas vraiment le système de transport local. Mais vers la fin du voyage, ben, mes coûts de transport avaient diminué énormément en sachant un peu ben voilà, les autres alternatives. Donc, ça, c'est que d'ailleurs, je vais te donner des conseils là-dessus plus tard. Donc, comme ça, tu ne feras pas les mêmes erreurs que moi. Donc, voilà. Mais sache que les transports sur place, à part les taxis, par contre, le reste est hyper, hyper économique. Donc, en utilisant les transports locaux, genre, tu payes des fois 20 centimes pour, faire des distances et tout. Donc, c'est vraiment très bon. Mais voilà, je t'en parle un peu plus par la suite, quand je vais te donner des conseils là-dessus. L'hébergement, c'est vraiment ce qui m'a coûté le plus cher. J'ai payé 288 € d'hébergement. Je n'ai jamais payé aussi cher pour des hébergements dans toute ma vie. Et c'est vrai que c'était la première fois que je voyageais et que j'avais toujours une chambre privée. Parce que, comme je te disais, au Sénégal, il y a une seule auberge de jeunesse à Dakar et les reviews sont tellement mauvaises que je me suis dit, ouf, je vais pas vraiment tenter ma chance là-bas. Donc, ça m'a coûté vraiment hyper cher d'hébergement parce que voilà, c'était tout le temps des chambres privées. Donc, si tu voyages à deux, par exemple, ben, tu peux diminuer de presque moitié le budget d'hébergement par rapport au mien. Donc, ça fait une grosse différence, 150 € de différence dans un budget voyage. C'est énorme, surtout dans un pays comme le Sénégal. Donc, voilà, l'hébergement en solo au Sénégal, c'est cher. Pour ce qui est de la nourriture, ça m'a coûté 53 €. Là encore, je vais te donner des tips parce que une fois que tu connais les endroits où aller, tu manges pour 1,50 € et moi, ça me faisait 2 repas avec 1,50 €. Donc voilà, hyper pas cher. Mais là encore, la nourriture, par exemple, au supermarché, c'est hyper cher. Donc voilà, je te vais donner plus de conseils là-dessus dans quelques instants. Les activités, j'ai dépensé 23 € en activités, principalement des musées et des visites, principalement des musées en gros, parce que les parcs nationaux que je voulais faire, ben certains étaient fermés, voilà, c'était un peu compliqué, donc j'en ai pas fait, mais les activités sont quand même à bon prix si tu les réserves là-bas et que tu négocies et tout. Les activités, c'est vraiment pas cher par contre au Sénégal, donc ça, c'est bien. Ensuite, j'ai payé 23 euros de SIM, ce que je trouve hyper cher. J'ai oublié de vérifier en ville, à Dakar par exemple, c'était combien pour une SIM. Moi, celle-là, je l'ai achetée à l'aéroport et je suis pas mal sûre qu'ils m'ont fait payer beaucoup plus que ce que j'aurais payé en attendant de la prendre en ville. Mais voilà, j'avais besoin de réseau tout de suite et tout. Bref, voilà, ça fait partie des coûts. J'ai dépensé presque 25 euros en frais bancaires parce que, bon, j'ai eu des problèmes avec ma carte de voyage et tout. Et pour retirer, ils te font des commissions de presque 6 euros à chaque fois pour faire des retraits. Donc, vraiment, si tu vas au Sénégal, utilise une carte qui te de voyage où tu ne paies pas les frais de retrait parce que ben 28 euros c'est ce que j'ai genre c'est plus que les activités donc j'aurais pu faire le double d'activités juste avec le budget que j'ai dépensé en frais bancaires donc vraiment erreur à ne pas commettre si tu vas au Sénégal ou partout ailleurs hein. Voilà moi j'ai eu un problème avec ma carte de voyage donc c'est pour ça que j'ai pas pu l'utiliser et que ça m'a fait tous ces frais mais voilà, utilise une carte de voyage qui te rembourse tes frais, ça vaut la peine. Donc, en tout, le total, j'ai dépensé sur place, donc sans compter les vols, l'assurance et tout, que je vais t'en parler juste après, ça m'a coûté sur place 530 euros, soit 40,77 € par jour. Donc, comme je te disais, c'est vraiment un des voyages les plus chers que j'ai fait à date dans ma vie. et au total, en incluant le vol, les assurances, les médicaments pour la malaria, les frais bancaires et tous les hébergements, les transports, etc. Que je viens de t'énumérer, ça m'a coûté au total 970 euros, soit 75 euros par jour, ce qui est énorme, en tout cas pour mes standards à moi. Donc, voilà un petit peu pour le budget. Comme je te disais, c'est pas une destination économique, le Sénégal. C'est sûr que si tu y vas à deux, ça permet de vraiment faire des économies d'échelle, mais ça reste quand même une destination assez coûteuse par rapport à d'autres endroits. Sur notre belle planète Terre. Voilà. Donc maintenant, je voulais te donner un peu de conseils pratiques pour si tu veux aller au Sénégal, comme ça pour bien préparer ton voyage. Et donc, je voulais te donner déjà quelques conseils sur les choses à apporter si tu vas au Sénégal. Donc, encore plus qu'ailleurs, parce que moi, je conseille toujours un sac à dos, mais là, au Sénégal, pour moi, c'est genre à 10 000% mieux de voyager avec un sac à dos là-bas, parce que les rues, ce sont de vrais chantiers. Il y a des flaques d'eau partout durant la saison des pluies. Bon, si tu es en dehors de la saison des pluies, ça doit être mieux, mais quand même, les rues sont en terre battue, il y a des obstacles partout, il faut monter sur des... Il y a des monticules, c'est vraiment... moi, j'adorais, là, c'était une aventure, vraiment, se promener dans les rues au Sénégal, mais vraiment, avec une valise, je pense que ça doit être un cauchemar, mais impossible. Donc, vraiment, j'éviterais la valise, absolument. Aussi, ben, dans les transports... pour se déplacer entre les villes et tout, c'est beaucoup, beaucoup plus simple avec un sac à dos que tu peux garder avec toi parce que là encore, les valises, bon, ils les mettent sur les toits des bus. Moi, par exemple, il y a une pluie diluvienne quand je revenais de Saint-Louis et j'ai pas trop compris les valises, comment elles ont fait pour ne pas être complètement trempées sur le toit du bus parce que vraiment, ça a été une pluie de 15 minutes, mais... diluvienne. Donc voilà, je te conseille un petit sac à dos si tu réussis, que tu peux garder avec toi dans les transports et tout. Ça va être beaucoup plus pratique pour tout en fait. Ensuite, pour ce qui est des souliers, là encore, la saison des pluies, il pleut beaucoup. Il y a vraiment des énormes flaques. Ça m'est arrivé d'avoir de l'eau jusqu'à mi-mollet. Donc je te conseille vraiment de prendre des souliers qui ne craignent pas l'eau et avec lesquels tu peux marcher durant longtemps. Et qui, genre, dans des conditions presque de randonnée. Parce que, comme je te disais, il faut souvent, genre, monter sur des bouts de béton, de bois, éviter des flaques, monter, descendre des trottoirs, mais qui sont, genre, défoncés. Bref, c'est vraiment... voilà, c'est sportif se promener, donc il faut avoir des bons souliers qui résistent à ce genre de conditions. Bien sûr, ça c'est en saison des pluies. Moi j'ai été durant la saison des pluies, donc je sais pas durant la saison sèche. J'imagine ben les flaques, ils doivent presque pas en avoir. Donc ça, au moins, peut-être que c'est moins important que les souliers résistent bien à l'eau, mais pour ce qui est de, des chaussures de marche confortables, ben, comme dans n'importe quel voyage, mais je te dirais encore plus au Sénégal, c'est important d'avoir des bons souliers. Là encore, durant la saison des pluies, du chasse-moustique, très 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 important parce que tu vas te faire dévorer sinon, mais même avec le chasse-moustique, moi je me suis fait dévorer certaines journées, donc vraiment important, surtout parce qu'il y a des risques de malaria, donc à ne pas oublier absolument. Aussi, pour la saison des pluies, des vêtements léger, vraiment, parce qu'il fait chaud, mais hyper chaud, genre. Ils disent qu'il fait 30 degrés, mais c'est ressenti genre 40 avec de l'humidité et tout. Donc, vraiment des vêtements légers qui respirent bien, parce que sinon, tu vas mourir de chaud. On m'a dit que dans la saison sèche, les températures descendent quand même. Donc là, peut-être avoir une petite veste ou un truc comme ça, c'est bien, mais il fait quand même chaud. Genre, dans le sens que c'est quand même... c'est des températures plaisantes, mais... il fait un petit peu plus froid, donc à prévoir peut-être une petite veste ou un truc comme ça. Ensuite, je te conseillerais d'apporter du papier de toilette si tu n'aimes pas utiliser genre les bidets ou les genres de douchettes, parce que voilà, c'est ce qu'ils utilisent là-bas, donc... si c'est un problème pour toi, apporte-toi du papier de toilette. Parce que, bon, après, dans les musées, des trucs comme ça, il y en a. Mais à part ça, dans le reste, même dans les Airbnb, dans les hôtels et tout, il n'y avait pas toujours de papier de toilette. Donc, à faire attention si c'est quelque chose qui te gêne d'utiliser d'autres moyens pour te nettoyer. Voilà. Et comme je disais, pour les femmes, vraiment, pour les vêtements, j'éviterais de mettre des tenues courtes. Pour éviter l'attention masculine non désirée. Ensuite, pour les transports. Alors, moi, j'ai été hyper impressionnée par l'énorme réseau de transport informel qu'il y a au Sénégal. En fait, tu peux te déplacer n'importe où au Sénégal. C'est vraiment un truc hallucinant. Genre, tu peux te faire déposer au beau milieu de nulle part si tu veux. C'est vraiment fou, 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 fou. Tu peux prendre l'autobus n'importe où ou genre un taxi collectif. Ou, bref, genre c'est hallucinant. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc, voilà, ce réseau de transport informel, voilà, c'est pas des compagnies et tout. C'est, il n'y a pas d'horaire. Ça passe quand ça passe. Ça part quand c'est plein. Donc voilà, c'est souvent ben, des taxis collectifs ou des ce qu'ils appellent des Njanganja, qui sont des genres de mini-autobus colorés et tout, ils sont vraiment nice. C'est une expérience, je recommande vraiment de les prendre, de prendre tous les moyens de transport possibles au Sénégal, parce que c'est une expérience en soi, moi j'ai adoré. par contre, voilà, comme c'est informel, il n'y a pas vraiment de... Genre toi, quand t'arrives là, moi je me suis... À chaque fois, je me demandais, mais comment les gens font pour savoir où ils peuvent prendre l'autobus, où ils peuvent descendre, où ils peuvent monter et tout. Donc, vraiment là, c'est pour ça que je te disais, faut vraiment pas hésiter à demander aux locaux, aux locals, je sais que ça ne dit pas en français, mais bon, bref, donc aux locals pour avoir des informations sur où prendre ces moyens de transport un peu informels. Donc, mais ce que j'ai compris après 2 semaines, c'est que généralement, à partir des gares, bon, ça c'est assez évident, hein, ça je le savais, mais c'est surtout aussi sur les axes routiers principaux. Quand il y a des... Ça aussi, c'est que tu le découvres en te promenant, hein, c'est pas vraiment évident, mais sur les principaux axes routiers, il y a souvent des genres de places où là tu vas avoir plein d'autos, et ça c'est des chauffeurs de taxi informels, clandestins, qui vont t'amener où tu veux, tu dis où tu veux aller, et une fois que le taxi ou le Njanganjai, qui est ce minibus là, ils sont pleins, ils partent, et voilà, donc voilà, ça c'est, mais je te conseille vraiment, un, pour l'expérience, d'utiliser ce genre de transport, et deux aussi, ben, parce que ça va être la meilleure façon de te déplacer, d'aller où tu veux, et ça va être aussi la plus économique par rapport aux autobus genre à l'européenne, qui sont beaucoup beaucoup plus chers. Par contre, si je peux te conseiller, si tu as le choix entre un taxi collectif, donc qui est une auto normale, où les gens, ben voilà, tu rentres à 4 ou 5 dans le taxi, c'est beaucoup plus rapide que le Njanganjai. Le Njanganjai, qui sont ces mini-autobus, ils sont souvent en panne, ils s'arrêtent vraiment littéralement à tous les 2 mètres. C'est un truc hallucinant. Genre, moi, j'ai fait 100 km de Dakar à Mbour, Avec le Jiangnan-Jiai, ça m'a pris 4 heures à l'aller. Et avec le taxi collectif, au retour, ça m'a pris, je pense, 2 heures ou 2 heures et demie. Donc voilà, le taxi collectif, c'est quand même beaucoup plus rapide. Ça coûte un petit peu plus cher que le Jiangnan-Jiai, mais honnêtement, pour les longues distances, je te conseille le taxi collectif. Ça va être beaucoup plus rapide comme voyage. Pour n'importe quel transport, je te conseille vraiment de toujours demander aux locaux les prix, aux locals. Quand je dis locaux, c'est les locals. Voilà, je ne sais pas pourquoi en français on n'a pas ce mot. Toujours demander les prix autour pour ne pas te faire avoir. Parce qu'ils vont vraiment toujours essayer de te faire payer plus vu que tu es touriste. Mais apparemment, même au Sénégalais aussi, ils essaient toujours de faire payer plus. Donc, c'est vraiment un truc qu'ils font à tout le monde. Mais si tu es blanc, ils vont te le faire encore plus. Donc, moi, par exemple, je demandais toujours aux personnes chez qui j'étais en Airbnb, ou même autour de la station et tout, ou de l'axe routier où j'ai pris les transports. Genre, oui, je vais là, ça coûte combien, plus ou moins. Comme ça, t'as une idée des prix. S'ils te disent quelque chose qui est genre vraiment plus que ça, ben, tu peux dire non. Ils m'ont dit que c'était moins, essaie pas, je sais c'est quoi les prix. et ensuite, voilà, pour la négociation des prix des transports, pour les taxis surtout. Et ça, surtout genre à Dakar ou dans les villes, les taxis, vraiment taxis, pas les taxis collectifs, mais les taxis entre guillemets normaux, ils vont toujours te dire le double du prix réel. Donc, tu pars la négociation à la moitié du prix qu'ils te disent ou un petit peu moins. Comme il y a vraiment beaucoup de taxis, genre à Dakar, tu vas jamais rester sans taxi, genre ils te sifflent même si tu marches pour te prendre et tout, donc ne t'inquiète pas, il y a vraiment des tonnes de taxis. N'hésite pas à laisser passer plusieurs taxis s'ils n'acceptent pas ton prix. Genre, par exemple, s'il te dit que c'est 3000, le premier dit que c'est 3000, donc là, tu dis 1500, et là, il dit non, c'est 3000, c'est 3000. Puis là, toi, tu dis non, mais bon, 2000, puis là, il dit non, c'est 3000. Ben, tu dis ok, merci, ben, je vais marcher ou je vais en attendre un autre. Et là, tu refais la même chose avec le deuxième, le troisième. Généralement, après un ou deux, tu réussis à monter. Si après 4-5 taxis qui passent, personne ne te prend à la moitié du prix, ben là, augmente de 500 francs et essaie de nouveau. Et là, généralement, ça fonctionne. Donc, voilà. c'est ce que j'ai compris, là, et ce que mes plusieurs amis sénégalais m'ont dit. C'est un peu la technique. Donc, ça va vraiment t'aider à ne pas payer autant que ce que j'ai payé les premiers jours à Dakar, où je me suis fait avoir 2-3 fois. Et après, j'ai appris. ensuite, pour l'hébergement. Moi, j'utilise jamais Airbnb. Je suis contre Airbnb, surtout quand c'est de louer des appartements complets et tout, parce que voilà, ça crée plein de problèmes dans les villes et tout. Mais au Sénégal, Airbnb, c'est encore utilisé comme c'était au début. Le vrai esprit d'Airbnb, c'est-à-dire que c'était de louer une chambre chez un particulier. Et donc, là, au Sénégal, y en a pas mal, surtout sur Dakar ou d'autres zones aussi, dans d'autres zones où il y en a quand même pas mal. Donc, c'est une bonne option. C'est souvent moins cher. Et en plus, ben, ça te permet quand même de vivre un peu avec une famille sénégalaise et tout. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment super. C'était une belle expérience. Donc ça, je le recommande. J'ai fait aussi deux hôtels, genre hôtel B&B, je sais pas trop comment les... Ouais, bref. Voilà, c'était très bien. Voilà, j'ai préféré après Airbnb pour vivre un petit peu aussi avec les personnes, voir un peu comment elles vivent. Donc, les prix, par exemple, sur Dakar, il faut compter un minimum 20 euros par nuit, par personne. Oui, ça dépend des chambres privées ou pas, mais en tout cas, 20 euros la nuit, ça c'est sûr, et Saint-Louis qui est vraiment plus cher, à partir de 30 euros, c'était quand même beaucoup plus cher Saint-Louis, donc voilà, ça c'est un peu les prix que moi j'ai trouvé. Pour ce qui est de la nourriture, moi je te conseille vraiment de manger dans les restos sénégalais, qui sont généralement, alors quand on dit resto, c'est pas notre idée de resto, donc il faut un petit peu les chercher. Souvent ils sont répertoriés par contre sur Google, mais c'est généralement genre un peu comme à l'intérieur de petites maisons et tout. C'est une grande salle, il y a des tables le prix en général c'est de 1000 francs pour le menu du jour. Donc généralement chaque jour il y a un ou deux plats qu'ils proposent, et donc voilà, il y a tu choisis celui que tu veux. Et c'est vraiment des énormes portions, genre c'est des énormes assiettes. Pour moi, c'était toujours trop. Donc, ils peuvent te mettre le reste dans une barquette pour emporter. La barquette coûtait 100 francs. Et donc, ça me faisait deux repas pour 1100 francs, ce qui veut dire même pas 2 euros. Donc voilà, je te conseille vraiment d'aller dans ce genre de resto-là. De un, parce que c'est la vraie nourriture sénégalaise et c'est vraiment délicieux, mais genre tellement bon. Et de deux, parce que voilà, dans les restos genre touristiques et tout, ils vont te faire payer des prix hallucinants, genre 5-6 fois ce prix pour de la nourriture qui généralement est même moins bonne. Donc je te conseille vraiment d'aller dans les restos typiquement sénégalais. C'est vraiment délicieux et... voilà, tu vas adorer, j'en suis sûre. Pour les supermarchés, comme je te disais tout à l'heure, là, quand je parlais du budget, la nourriture au supermarché est hyper, hyper chère. Je me demande vraiment comment les gens au Sénégal font pour acheter de la nourriture au supermarché parce que c'était très, très cher. Donc, c'est vraiment plus économique de manger au resto, en fait, et d'acheter des choses aux vendeurs de rue où il y a aussi des boutiques. Genre, à tous les coins de rue, il y a des boutiques qui sont ouvertes, genre, hyper tard le soir et déjà hyper tôt le matin. Et là aussi, ils vendent les trucs un peu plus dont on a besoin quotidiennement et tout. Et ils sont généralement moins chers que les supermarchés, donc je te conseille ça. Mais vraiment, les supermarchés, c'est hyper cher. Par contre, moi, je suis allée genre 2-3 fois parce que j'étais fatiguée de devoir négocier les prix. J'avais envie qu'on me dise juste les prix. Mais c'est une petite blague, là. Mais aussi, genre, j'avais envie à un moment donné genre, d'un yogourt ou un truc comme ça. Et ça, on ne les trouve pas vraiment dans les boutiques. Donc voilà. Mais ça, c'est les fois où j'ai été au supermarché. J'ai regretté par la suite parce que ça m'a coûté genre 3-4 fois ce que m'aurait coûté un repas. Et ça m'a moins rempli qu'un repas sénégalais. Donc, voilà. Et pour ce qui est de l'eau, alors l'eau n'est pas potable. En tout cas, nous, on ne peut pas vraiment la boire, là, sauf si on veut avoir une diarrhée pendant plusieurs jours. Donc, alors moi, c'était un test, le Sénégal aussi. Voir si je voulais m'acheter ou non un filtre pour l'eau. Et j'ai décidé que oui, parce que c'est hallucinant la quantité de plastique qu'on produit en buvant de l'eau en bouteille tous les jours. Donc voilà, je te conseille soit d'apporter un filtre, soit si tu restes 2-3 jours au même endroit, achète une cruche d'eau de 10 litres qui coûte 1000 francs et remplis ta bouteille avec ça. Ça va te coûter beaucoup moins cher que d'acheter des bouteilles à l'unité. Ça réduit aussi la quantité de plastique utilisée, donc c'est quand même bien aussi. Finalement, un petit point que je trouve vraiment hyper important, dont je vais te parler ici, et dont je vais reparler, je pense que je vais faire un épisode dédié juste à ça d'ailleurs, c'est d'apprendre un petit peu de Wolof pour aller au Sénégal. Si tu veux voyager hors des sentiers battus et vivre un peu comme les gens les Sénégalais en fait, je te conseille d'apprendre quelques mots, quelques phrases pour pouvoir communiquer avec les gens. Parce que, et même si tu voyages pas, genre, à la route, en voyageant, un peu plus, comme les personnes, les Sénégalais font et tout, apprendre les transports en commun et tout, je te conseille d'apprendre à dire juste quelques petits mots, petites phrases en Wolof. Ça prend vraiment, vraiment pas beaucoup de temps. Je vais faire un post, d'ailleurs, sur Instagram avec les mots les plus importants, comme ça, si t'as envie d'apprendre quelques mots de Wolof avant ton voyage au Sénégal, tu pourras aller le trouver. Juste apprendre à dire bonjour, ça va, s'il vous plaît, merci, au revoir, parce que ça fait vraiment énormément plaisir aux personnes, et ça dans n'importe quel pays, hein. Là je te parle du Sénégal, mais en général, ça fait toujours plaisir aux gens qu'on essaie de faire un petit effort de parler leur langue. C'est vraiment pour moi, c'est une marque de respect envers eux, c'est une marque d'intérêt envers leur culture, et donc voilà, et ça coûte vraiment rien d'apprendre 5 mots. Et surtout, ça va te faciliter la vie parce que, comme je te disais, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le Sénégal, donc tu vas vraiment avoir besoin d'aller parler aux gens pour comprendre un peu où prendre les transports, où aller, quoi faire, etc. Donc, et en dehors, ben, de Dakar et de Saint-Louis, j'ai noté qu'il y a quand même moins de gens qui parlent bien le français. Donc, ça peut être utile de connaître quelques mots, quelques expressions pour pouvoir te débrouiller en dehors des villes. Et voilà. Et moi, en sachant dire littéralement genre trois phrases, les gens étaient tellement contents, mais ça a créé vraiment des belles discussions. Les gens, ils m'ont montré des choses que si j'avais pas démontré cet intérêt pour leur culture, apprendre le Wolof et tout, genre ils auraient probablement passé leur chemin et tout. Donc vraiment, si tu veux vivre une belle expérience humaine, moi je te conseille de faire ça, d'apprendre quelques mots. Ça va vraiment t'aider et ça fait vraiment plaisir aux gens. Donc c'est toujours une belle chose en fait, moi je trouve, d'essayer d'apprendre quelques mots d'une autre langue. Donc voilà un petit peu ce retour sur mon voyage au Sénégal. Bon, c'est un peu un long épisode, désolée, j'avais pas mal de choses à dire, mais comme je disais, il n'y a pas vraiment beaucoup de ressources sur le Sénégal, donc je me suis dit, si des gens sont intéressés à y aller, autant donner un petit peu de conseils ici pour faciliter leur voyage. Donc j'espère que ça t'a plu, que ça que ça t'inspire à aller au Sénégal. Si tu as des questions, n'hésite pas, évidemment, à me contacter, soit par email à thenomadiclifestylepodcast@gmail.com ou sur Instagram à Sarah la Nomade. Ça va me faire plaisir d'échanger avec toi sur le Sénégal. J'ai vraiment adoré. Donc, d'ailleurs, je veux y retourner et passer au moins un mois. on verra quand. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. N'hésite pas non plus à partager cet épisode avec des gens que tu connais qui pourraient être intéressés à aller au Sénégal. Ça aide le podcast à se faire connaître et aussi les gens à aller découvrir de belles destinations. Donc, ça me fait hyper plaisir. Voilà, et je voulais te laisser sur une citation qui, je trouve, représente tellement bien ce que j'ai vu au Sénégal. Et je pense pas mal dans le reste de l'Afrique et qui représente vraiment bien la perception du temps, comment les gens vivent là-bas. Donc voilà, c'est une citation de Bertrand. Je pense que je l'avais prise dans un livre, mais je ne sais pas exactement plus que ça, malheureusement, la source. Mais voilà, cette citation dit « Le temps africain n'existe pas de façon linéaire, calculée, comptée et écoulée comme dans l'Occident cartésien. Il n'est pas découpé en heures, en minutes et en secondes. » Les fractions de secondes sont une abstraction, voire une aberration. Le temps africain est plutôt découpé par des épisodes de vie quotidienne et non par une décision scientifique arbitraire. La vie est rythmée comme la musique qui résonne si souvent sur ces terres. Voilà, je trouve que ça représente vraiment bien ce que j'ai vu au Sénégal, ce que j'ai vécu, cette sensation vraiment de paix, de calme, de sérénité. Bon, le calme, ça dépend dans quels endroits, mais quand même, genre, le rythme de vie hyper tranquille, hyper chill, posé, et qui fait vraiment du bien. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu et je te retrouverai dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures!